RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, l'image a fait le tour du monde le 1er mai dernier lors d'une manifestation à Paris. Le journaliste syrien Zakaria Abdelkafi photographie un CRS français en flammes après un jet de cocktail Molotov. C'est désormais devenu une habitude dans les manifestations en France pendant le défilé ou à la fin. Des affrontements éclatent entre forces de l'ordre et une frange de manifestants. Ces manifestants, ils se font appeler les ingouvernables. Leur lutte, faire tomber le capitalisme et réinventer une société plus radicaux que le mouvement Nuit Debout. Les collectifs ingouvernables ne font pas que manifester, ils expérimentent aussi de nouvelles façons de vivre en communauté. À Nantes, dans l'ouest du pays, un noyau dur de cette contestation du système s'est implanté. La proximité de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où vivent des centaines d'opposants au projet d'aéroport, a joué un rôle important. L'histoire politique de Nantes également. Nous avons rencontré ces ingouvernables pour tenter de comprendre leur combat. La plupart témoignent anonymement, leurs prénoms ont été modifiés. Les ingouvernables de l'Ouest, un grand reportage signé Alexis Bédu.
Tout simplement, être ingouvernable, c'est aussi sortir du jeu politique qu'on nous présente comme étant le jeu politique démocratique, alors qu'en réalité c'est une farce. C'est qu'en fait on a des gouvernants qui ne prennent pas en compte la voix de plein de gens qui se lèvent en droit de manifester, qui est quand même un droit constitutionnel. Et donc être ingouvernable, à partir du moment où les gouvernants ne jouent pas le jeu démocratique, forcément l'objectif est aussi de devenir ingouvernable pour eux.
C'est affirmer autre chose que la politique classique traditionnelle qu'on voit s'effondrer sous nos yeux d'ailleurs avec aujourd'hui, maintenant qu'on est après la victoire de Macron, on voit que les partis sont tous en train de s'effondrer, la politique classique est en train de mourir. D'ailleurs maintenant le président c'est un espèce de télé-évangéliste aux ordres du patronat qui a été élu sans programme sur les ruines fumantes de la droite et de la gauche. Enfin, on est dans une période assez étonnante. On sait qu'il va partir avec un discrédit très fort, ce nouveau président, et donc faire entendre autre chose, notamment dans la rue, notamment dans des actions, notamment sur les ZAD, une voix qu'on peut qualifier d'ingouvernable et l'affirmer en tant que force politique nouvelle.
Ça sent la poudre et le gaz lacrymogène dans les rues de Nantes. Une partie de la jeunesse française se révolte et s'organise. Rosa et Marc sont de presque toutes les actions. Ils sont parfois 10 pour une réunion dans l'arrière-salle d'un café, parfois 300, parfois 1000 dans la rue pour crier leur colère. Contre la loi travail, contre le Front National, contre les violences policières ou plus récemment contre l'élection d'Emmanuel Macron au soir du second tour de la présidentielle. Sur Facebook, la page Nantes révoltée est suivie par 37 000 personnes. Ils ne sont pas tous activistes, mais leur volonté est la même. Un changement profond de société, plus écologiste, plus égalitaire, moins répressive. La plupart se sont rencontrés il y a un an, au printemps 2016, lors des manifestations contre la loi travail. De nombreux jeunes, lycéens ou étudiants s'y politisent. Pas tous pour les mêmes raisons, nous raconte Marc.
Il y a autant de chemins que de personnes qui sont dans ces cortèges de tête ou dans ces mouvements, comme tu dis, ingouvernables. Avoir été harcelé par un patron quand tu bosses chez Carrefour, avoir été blessé par la police quand tu bloques ton lycée, en avoir juste marre d'être spectateur de l'espèce d'effondrement actuel, t'être rendu sur une ZAD et avoir subi la répression. Enfin, il y a une infinité de façon d'aborder la chose. On a tous des trajectoires différentes, on s'est retrouvés sur des pratiques communes en fait, c'est plutôt ça qu'on peut dire. Après on va peut-être pas rentrer dans le détail de nos biographies respectives, mais voilà, il y a autant de personnes, en avoir marre de se faire contrôler en permanence en bas de chez toi parce que t'as pas la bonne couleur, enfin voilà, il y a autant de façons de rejoindre entre guillemets ce mouvement que de personnes qui y sont quoi.
Et il y a souvent un élément déclencheur. Pour Thomas, cela s'est passé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 à 600 km au sud de Nantes, à Sivens. Un jeune militant écologiste, Rémi Fraisse, opposant au projet de barrage sur une rivière du coin, est tué par une grenade offensive lancée par un gendarme.
Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui manifeste ou alors Même, alors il y a eu un échange de cailloux, encore un échange de cailloux, mais j'ai connu ça dans ma jeunesse, des fois on se lançait des cailloux avec des potes en jouant, et là le type est mort, quoi. Le type est mort, et la nouvelle se confirme, et ouais, le type est mort. Et bah, j'étais tout jeune, quoi, mais ça m'a vraiment politisé, ça m'a juste. Ça a confirmé le fait que des gens qui veulent essayer d'inventer la possibilité d'avoir une vie commune, une vie en commun, une vie meilleure, de pouvoir réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire tous et toutes ensemble, qu'est-ce qui nous pousse à vivre, enfin à continuer à vivre dans ce monde de merde quand même. Il y a quelque chose qui nous pousse, il y a des choses bien, il y a toujours cette vie derrière pour laquelle on lutte, quoi. C'est pas une lutte nihiliste, c'est vraiment une lutte pour la vie.
Parmi ces jeunes qui font les gros titres des médias à chaque incident de manifestation, il y a Romuald, 22 ans. C'est un enfant des quartiers populaires de Rezé, au sud de Nantes. Il témoigne sous son vrai nom. Il n'a rien à cacher, dit-il. La police le connaît bien.
Moi, je suis plus un révolté, en fait. Quelqu'un qu'on a marre de tout, tout ce qui se passe. Les violences policières, tout le pillage médiatique. En fait, c'est tout un truc qui fait qu'il y en a marre au bout d'un moment.
La violence contre la police, Romuald l'a approuvée, il l'a utilisée même. En juin 2016, au cours d'une manifestation contre la loi travail, il fait tomber un policier de sa moto. Rattrapé par un autre collègue, il est arrêté, jugé, puis emprisonné pendant 4 mois.
Bah, ça m'a plus révolté que changé, en fait. Plus. J'ai plus de colère que autre chose. Parce que quand je vois que, par exemple, l'affaire Théo, que je vois que des policiers ils agressent un jeune, qu'ils enfoncent une matraque dans l'anus, franchement, là, ça me révolte encore plus. Moi, eux, ils sont pas en prison à cette heure-ci, alors que moi, pour des pavés jetés sur des CRS, et puis une accusation de casser une vitrine de Ouest-France que j'ai jamais fait, je comprends pas. J'étais en prison, eux, non, ils sont pas été en prison. Alors ça me révolte encore plus. J'ai encore plus la haine contre l'État français aujourd'hui.
Aujourd'hui, Romuald est interdit de manifestation en Loire-Atlantique. Qu'importe, il prévoit de se rendre à Rennes lors du prochain mouvement social. Pas question d'arrêter, même si son nouveau travail complique la donne. Sur les violences, Romuald ne transige pas. Selon lui, s'il y a des affrontements, c'est à cause des policiers.
C'est la police qui provoque en premier, selon vous ?
C'est elle qui donne le ton de la manifestation, en général, dans les manifs. Si elle viendrait pas dans les manifestations, ça se passerait très bien. Il n'y aurait pas d'affrontement avec la police. Nous, c'est ça qu'on veut. Et des manifestations sans police, ça serait bien. Ça serait parfait à Nantes.
Et ça serait pacifique ?
Ah, ça serait pacifique, justement. C'est ça qu'on veut à Nantes. On veut plus d'affrontements avec la police. J'en ai fait partie avant, dans le passé. Nous, c'est pas ça qu'on voulait. C'est crier notre colère. Eux, s'ils ont envie de se battre contre nous... Mais nous, on va pas se laisser faire. Normal, on va riposter avec des cailloux, des jets de canettes, cocktail molotov, bombe incendiaire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en manifestation.
À Nantes, ces dernières années, deux jeunes hommes ont perdu un œil après un tir de flashball et un jet de grenade assourdissante. C'était en 2007, lors du mouvement contre la réforme des universités, et en 2014, lors d'une manifestation monstre contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À la suite du mouvement contre la loi travail, 11 plaintes pour violences policières avaient été déposées par des manifestants. Elles ont été classées sans suite la semaine dernière. Pour Marc, il y a clairement une volonté de décourager les manifestants.
Il n'y a pas une manif sans blessés. Enfin, voilà. D'une part, la réponse judiciaire est extrêmement lourde. Là, par exemple, pour un tag, il y a un manifestant sur la manifestation du dimanche soir des élections, quand Macron est passé, là, le 7 mai. Il y a un manifestant qui a passé 48 heures en garde à vue, qui a un procès pour un tag. Enfin, voilà, là, on rentre dans une dimension complètement folle. Et d'autre part, rien que sur une manifestation qui a duré quoi, une heure le dimanche soir, on a compté une trentaine de blessés par des balles en caoutchouc, par des éclats de grenades. Enfin, là, on est dans une dimension... voilà, où la frontière punitive d'une part, et où la frontière entre maintien de l'ordre et opération de guerre de basse intensité est en train de s'effacer totalement. Là, c'est vraiment ce qu'on a vu l'autre soir, c'est là-bas qui attaquait le cortège avec des armes dites non létales et qui frappait les corps.
J'ai de pavés, de bouteilles en verre et parfois cocktails Molotov contre grenades et lanceurs de balles de défense. Bilan des manifestations, des blessés des deux côtés, des CRS sont régulièrement touchés lors des affrontements.
En 2014, on a eu sur une manifestation, c'était le 22 février 2014, on a eu quand même 122 blessés au niveau de nos collègues. avec une manifestation ultra-violente.
Stéphane Léonard est délégué départemental du syndicat SGP Police, Force Ouvrière, en Loire-Atlantique.
C'est pas parce qu'on est fonctionnaire de police qu'on n'a pas peur. Hein, donc. Mais ce sont des professionnels et le devoir reprend le dessus. C'est-à-dire que le but, c'est de protéger les citoyens et les biens de la ville qui défend, entre guillemets.
Pourquoi il y a des affrontements? Pourquoi ça se passe comme ça, en fait?
Bah, les affrontements, parce que je pense que la violence augmente. En règle générale, elle se passe toujours bien, sauf que là, on a une catégorie de personnes, alors comment on les appelle, je sais pas, antisocial, anti-gouvernement, anti je sais pas quoi d'ailleurs, qui viennent simplement pour se faire du fonctionnaire de police, casser, dégrader. Les manifestations ont changé, c'est plus les manifestations d'antan où on avait des vraies revendications. Ceci dit, heureusement que ça reste une minorité quand même. Hein. On a quand même des gens en France qui manifestent pour des bonnes causes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, sauf qu'à côté de ça, on a des groupuscules. Qu'il faudrait d'ailleurs identifier et peut-être empêcher de nuire auparavant. La violence, c'est pas des violences policières. Force doit rester à la loi. Dès l'instant où on a quelqu'un qui agresse les forces de l'ordre, qu'on doit interpeller, il est bien évident qu'en général, on l'a constaté sur les vidéos, bien évidemment, il ne va pas se livrer tout seul, on va le chercher, et bien sûr, ça peut être violent, bien sûr, oui, c'est violent, parce que ça se passe, la personne doit passer, c'est interpellé, donc il y a des techniques de police qui sont employées, qui peuvent être choquantes, mais le but, c'est d'empêcher ces gens de continuer à nuire et de les remettre surtout à la justice.
Dans le centre-ville, commerçants et habitants semblent à bout de nerfs. À chaque lendemain de manifestation, il faut remplacer certaines vitrines, nettoyer les devantures. Stéphane Le Guérinec, patron du magasin de sucrerie Les Rigolettes Nantaises, témoigne.
On a vu quand même devant le magasin des petites jeunes de 15-16 ans, masquées bien sûr, et avec des cocktails Molotov à la main. 15 ou 16 ans. On se demande dans quel monde on est. J'ai eu... dans un temps ultérieur, un député, je ne vous dirai pas lequel, pour ne pas me faire de polémique, je lui ai demandé de quoi faire pour les commerçants et qu'est-ce qu'il comptait faire. Il m'a dit qu'il était de tout cœur avec nous, mais qu'on n'était que des dommages collatéraux. Donc on ne compte pas, on est des dommages collatéraux. Les commerçants artisans, on est quand même le poumon de la France. C'est nous qui embauchons, c'est nous qui faisons vivre la France. Et on vient nous casser nos boutiques sans raison.
Alors un collectif de riverains et de commerçants nantais s'est créé au printemps 2016. Touche pas à mon centre-ville, compte 2300 fans sur les réseaux sociaux. Cette pharmacienne en fait partie.
Faut vivre une journée avec l'hélicoptère qui tourne toute la journée au-dessus de votre tête, les grilles qui se baissent et qui se descendent, les gaz lacrymaux qui rentrent, les gens effrayés. Faut vivre ça pour le croire. La solution, c'est que ces manifs soient vraiment interdites et qu'on ait vraiment une répression. Je suis désolée, mais ça va pas faire plaisir, mais moi la répression policière, je suis pour. On n'imagine pas quand on est en dehors, même quand on est en dehors de Nantes, on n'imagine pas ce que c'est que le centre-ville de Nantes. C'est Nantes, une ville toute calme au bord de la Loire, hein, c'est pas vrai, du tout. Donc qu'est-ce qui a fait ça? C'est Notre-Dame-des-Landes, c'est depuis 2 ans, c'est l'enfer. On a laissé s'installer une cour de jeu ici en centre-ville, c'est un terrain de jeu ici. Et ben, je suis désolée, c'est plus possible.
Pour beaucoup, l'origine de tout ce remue-ménage se trouve à une trentaine de kilomètres de Nantes. Dans des prairies, des sous-bois luxuriants, il y a un endroit unique en son genre en France. C'est la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Sur ses 1650 hectares de bocage, le projet d'aéroport du Grand Ouest s'enlise depuis une dizaine d'années. Environ 200 opposants au projet se sont installés dans les fermes laissées à l'abandon. Ils viennent de toute l'Europe et tentent une expérience politique en toute illégalité.
Alors on monte au phare là.
Jet est anglais. Il est arrivé il y a un an sur la zone, au lieu dit la Rolandière. Il s'est installé dans une ferme et avec d'autres opposants, il a construit un phare de 18 mètres de haut.
Alors là, on voit le magnifique bocage. On est à côté de la tour de contrôle. On a fait le phare sur le site. C'était un détournement de la tour de contrôle. On s'est dit, on veut pas une tour de contrôle, mais on aimerait bien un phare. Un phare pour un peu... symboliser un peu la montée des eaux avec la crise climatique, que peut-être on aura besoin d'un phare ici un jour.
C'est pas un phare de surveillance.
Et c'est pas du tout un phare de surveillance. En fait, c'est un phare pour donner l'espoir, pour t'accueillir aux portes, te montrer que tu es chez toi, Pour nous, c'est vraiment important de protéger ce territoire, de devenir le territoire, d'habiter ce monde, ces mondes, d'habiter ce territoire. C'est aussi fait pour un outil de désobéissance et d'action, parce qu'en fait, si les flics arrivent, un jour, on va être tous attachés au phare et on peut mettre des dizaines et dizaines de personnes attachées ici à 17 mètres d'eau et ça va être assez galère pour les flics de nous descendre.
Est-ce que ça reste une zone ingouvernable ?
Ah bah oui, on n'a pas eu un permis de construire pour construire le phare, ça c'est clair. C'est une zone, les flics ne sont pas venus ici depuis le printemps 2013. Chaque fois qu'un juge veut venir, on bloque son arrivée. Tout le monde est squatteur sur le territoire. Même les vaches qu'on voit là sont des squatteurs. C'est une zone où on essaye de repenser comment on peut vivre ensemble sans se gouverner, sans chef, sans domination, sans forme d'hierarchie. C'est pas évident, c'est difficile, c'est compliqué, il y a des embrouilles. Quelquefois ça marche bien, quelquefois ça marche pas du tout. On a beaucoup à apprendre. Je pense que c'est notre état normal, mais un état qu'on a oublié et qu'on doit reconstruire. Et on le reconstruit en se déconstruisant aussi. Et ça, c'est pas évident.
Le dossier Notre-Dame-des-Landes est une épine dans le pied des présidents français depuis plusieurs mandats. Pour tenter de régler le contentieux, Emmanuel Macron a nommé des médiateurs. La possibilité d'une annulation du projet est désormais envisagée. Pour l'historien nantais Michel Kervarec, ancien militant du Parti communiste, ce serait une grave erreur. Selon lui, la nouvelle génération se trompe de combat.
J'aime ma ville, je suis né à Nantes. Moi, je vois des évolutions positives, la ville de Nantes, moi, depuis qu'elle s'est transformée, positivement pour moi.
Et vous pensez que ce qui se passe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe dans les rues de Nantes à chaque manifestation, ça empêche au bon développement de la ville ?
Ah ben, à mon avis, c'est une vue étroite des choses. Pour moi, c'est une vue étroite des choses, oui. Hein ? C'est de ne pas voir les nécessités. Sur des questions comme ça, que Notre-Dame-des-Landes, là, je dis, mais ils sont à côté de leur pompe. Ils sont à côté de leur pompe.
Soit ça continue à se développer, soit ça dépérit, c'est
oui,
ça que vous dites ?
Oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est une lutte, mais on est dans un système qui fonctionne comme ça. Il faut faire avec, quoi.
Aujourd'hui, les générations s'entrechoquent dans les cortèges. Syndicats et jeunes révoltés d'extrême gauche ne défilent pas sous la même bannière. Ce n'est vraiment plus comme en mai 1968.
L'Ouest a manifesté massivement et dans le calme. Quatre cortèges rassemblés en différents points de la ville se sont regroupés pour n'en plus former qu'un, évalué à 10 000 personnes, comprenant ouvriers, employés, paysans et étudiants.
La triple alliance de mai 68 est loin désormais. Aujourd'hui, ouvriers, étudiants et paysans peinent à se retrouver sur un terrain commun. Les façons de manifester ne semblent plus compatibles. Marc, l'ingouvernable, insiste sur ce point.
La dimension créative, elle est essentielle pour nous. C'est voilà, dessiner, coller, lire, proposer des vidéos, des sons, c'est essentiel dans nos tafs. Et voilà, la dimension créative est encore une fois une nouvelle façon de faire de la politique en sortant, voilà, par exemple, des banderoles moches des syndicats et des slogans un peu pétés. Bah, il va y avoir des chansons, il va y avoir des graphes, des fresques, il va y avoir voilà, des choses qui sortent de l'ordinaire un petit peu, des façons d'apparaître et d'exister autrement. Et c'est ça aussi qui va agréger quelque part, et on le constate, d'autres populations que celles qui auraient fait une manif syndicale. Clairement, la plupart des jeunes qui défilent avec nous, ils seraient jamais venus à une manifestation uniquement traditionnelle, entre guillemets folklorique, comme on voit depuis des décennies. Et là, ils viennent parce qu'ils se retrouvent dans les mots d'ordre et dans la pratique aussi.
Le 28 juin prochain, la réforme du Code du travail sera à l'ordre du jour au Conseil des ministres. Les prémices du Big Bang social du quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans les rues de Nantes, l'automne s'annonce mouvementée.
Parlons de la ZAD, vie du ciel, loin de votre système procéduriel, ou l'occasion de conjuguer nos petites existences au pluriel. Je me suis pris au mirage, puis j'ai ouvert les yeux. Le retour sur terre, la retombée des cieux. Les vieux démons nous hantent toujours des comportements dédaigneux. Sérieux, autour de moi, l'oppression permanente me fatigue et m'attriste. Menace physique, comportement sexiste, comportement fasciste, comportement classiste.
Les ingouvernables de l'Ouest, un reportage d'Alexis Bédu. Réalisation Sandrine Stra.
La ZAD du ciel, un autre regard, ZSR 2016. Vas-y, teste, essaye pour voir.